Le journal Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, une sortie au cinéma très mouvementée. Le dernier film de Roman Polanski sera sur les écrans à partir de ce matin. Le réalisateur accusé à nouveau de viol ces derniers jours. Une avant-première à Paris a dû être annulée hier face aux protestations d'un collectif féministe. Reportage à suivre. À suivre aussi la critique du film. Eva Bétan nous rejoindra en studio. Dans ce journal également, la souffrance des personnels hospitaliers qui s'organise à la veille demain d'une grosse journée de mobilisation en France. Nous serons en Bolivie où les partisans d'Evo Morales manifestaient pacifiquement hier dans les rues de la capitale. Et puis pour terminer, du rugby avec la première conférence de presse du nouveau sélectionneur du 15 de France, Fabien Galthié, qui fait sa rentrée au beau milieu de son village natal.
Au micro de Léa Salamé dans 20 minutes, c'est aujourd'hui Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur.
France Inter.
Et direction le 5e arrondissement de Paris pour commencer, Sébastien, avec cette avant-première du dernier film de Roman Polanski, annulé hier soir.
Le cinéma d'arrêt d'essai, Le Champeau, avait prévu de projeter J'accuse, mais son réalisateur, on le sait, depuis une semaine au cœur de la tourmente. Polanski accusé d'un autre viol qu'il dément. La projection du film n'a donc pas pu se tenir. Une trentaine de féministes ont bloqué l'accès à la salle pendant plus de 2 heures pour dénoncer l'impunité dont bénéficie, selon elle, le cinéaste. C'est le reportage de Faustine Calmel.
Elle se dresse devant la porte du Champeau, toute de noir vêtue, banderole tendue, et ses mots inscrits « Polanski violeur, fin de l'omerta dans le monde du cinéma ».
Cet homme-là, aujourd'hui, bénéficie d'une impunité totale auprès de son public, auprès du monde du cinéma. On vient ici pour se récrier de cette impunité dont jouissent les agresseurs actuellement.
Le public est interpellé.
On appelle non seulement le public à ne pas aller voir ce film, mais on incite les gens à se rebeller contre le fait qu'il soit dans une impunité mondiale, cet homme-là.
Certains spectateurs s'interrogent.
C'est très difficile pour moi de défendre cette cause-là, de cette cause de Polanski. C'est un metteur en scène que j'adore, mais en même temps, c'est vrai, on ne peut pas le pardonner, mais c'est pas un assassin, le type.
D'autres s'agacent, le ton monte.
Je ne suis complice de rien. Je ne suis pas juge, je ne suis pas policier. Et je n'empêche pas les gens d'aller voir des films.
Les deux séances d'avant-première sont finalement annulées, mais les discussions continuent tard sur ce trottoir entre des débatteurs aux arguments irréconciliables.
Reportage de Faustine Calmel hier soir devant le cinéma Le Champeau à Paris. Voilà pour la polémique autour du réalisateur. Passons maintenant au film lui-même, J'accuse. Bonjour Eva Bétan.
Bonjour.
Alors que peut-on y trouver? Qu'en avez-vous pensé?
Écoutez, on entre et on est en alerte, mais à voir le film, il n'y a pas de parallèle déplacé entre les persécutions subies par Dreyfus et l'homme Polanski qui s'estimerait persécuté. C'est un tout autre registre. Ce film s'inscrit dans le travail de transmission sur les pages terribles de l'histoire initié par Polanski avec Le Pianiste, et dans la lignée de son cinéma du mal et du malaise. En effet, ce n'est pas par le biais du bien de Zola que Polanski prend l'affaire Dreyfus, c'est par le biais de l'ambiguïté. Le colonel Picard, qui va beaucoup faire pour la réhabilitation de Dreyfus, est le représentant parfait d'une classe sociale culturellement antisémite et d'une armée qui a condamné Dreyfus. Et le film ne va pas suivre l'arc narratif classique de l'évolution du mal vers le bien. Ce n'est pas une prise de conscience politique, et Picard est probablement tout aussi antisémite après qu'avant, et pourtant, et tout le film est dans ce « et pourtant », quand la vérité va commencer à lui apparaître, rien ne l'arrêtera. Les bons sentiments nous auraient rassurés, le trouble nous met en éveil. Et dès lors, Polanski opère en artificier qui démonte la mécanique de destruction des Dreyfus, et elle est grossière. Et c'est un crime de bureau, poussiéreux, mais ça marche parce qu'en dessous, il y a le terreau d'une société malade, de son entre-soi, de son arrogance de classe, d'un antisémitisme enkysté, une société en déliquescence, et en même temps, c'est une période, il le montre, de grande créativité artistique. Encore l'ambiguïté, l'histoire confirmera que la culture n'empêche pas la barbarie, que les préjugés raciaux minent les sociétés comme des virus. J'accuse est un film de très haute volée, car il ne se contente pas de faire un arrêt sur une page d'histoire, il porte en germe, et c'est encore un terme emprunté à la maladie, le monde qui va suivre.
Eva Bétan, merci. Sortie donc du dernier Polanski aujourd'hui dans les salles. J'accuse un film France Inter.
Il est 7h34, les hôpitaux français en pleine ébullition. Sébastien, J-1 avant la grande mobilisation de demain.
Une journée nationale de manifestation afin de demander un plan d'urgence pour l'hôpital public, des ouvertures de lits, une augmentation du budget de l'hôpital, des effectifs supplémentaires, de meilleurs salaires. Mais au-delà de ces revendications, il y a un malaise, le malaise des personnels soignants qui ne passent pas en grève pour certains depuis près de 8 mois. Écoutez ces témoignages recueillis par Mathilde Imberti aux urgences de Lyon.
Quand nous retrouvons ces femmes soignantes qui préfèrent rester anonymes, l'une revient de 11 heures de garde épuisée.
Je suis médecin urgentiste à l'hôpital Édouard Herriot sur la ville de Lyon. On a entre 20 et 30 patients par médecin minimum à avoir sur une douzaine d'heures de garde. On est en sous-effectif permanent et en plus on a peur pour nos patients, on a peur de commettre des erreurs.
Un personnel en souffrance qui subit par ailleurs des agressions verbales ou physiques quotidiennes.
Vous pouvez regarder mes bras, ça c'est des traces des patients qui nous agressent, qui nous attrapent. C'est quand même dommage d'avoir des stigmates visibles.
Les menaces, les papiers à remplir, le casse-tête pour trouver un lit aux patients, cette pénibilité entraîne un turnover considérable. Cet urgentiste en poste depuis 10 ans ne compte plus les collègues qui craquent ou qui partent.
Il faut quand même savoir que quand on fait le même travail pénible, nos confrères préfèrent être payés 3 fois plus dans le privé. Ouais.
Et que dire des paramédicaux ? Eux réclament 300 euros en plus par mois, un minimum pour cette infirmière de 25 ans.
Une infirmière qui débute aux hospices commence à 1480, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un appartement. Puis c'est pareil, on travaille de nuit, on travaille de jour, on travaille les week-ends, les jours fériés. Et on ne pourra pas tenir des années avec des conditions aussi critiques, en fait. Sinon, c'est nous qui allons nous y perdre.
Trois soignantes qui comptent grossir le cortège lyonnais jeudi, car il leur faut une réponse.
Les jours où ça déborde partout, les patients restent des brancards des heures et des heures. Il n'y a jamais personne qui vient voir ça. On ne sait pas où sont les ministres, mais en tout cas, ils ne mettent pas les pieds aux urgences.
On se demande effectivement quelle est la volonté politique actuel pour le système de santé français.
À Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Lui devrait toucher plusieurs centaines de milliers d'euros. Thierry Bolloré, ancien directeur général de Renault, évincé du groupe il y a un mois, devrait toucher une indemnisation des actions pour un montant d'environ 2,4 millions d'euros. Patrick Balkany, lui en revanche, n'arrive pas à rassembler l'argent nécessaire pour sortir de prison. Le maire de Levallois-Perret saura ce matin si sa deuxième demande de mise en liberté est acceptée ou non. Toutefois, même si elle est acceptée, lui fallait réunir une caution de 500 000 euros. Or, la cagnotte en son soutien n'a atteint à ce jour que les 50 000 euros. Partons maintenant pour la Bolivie. La Bolivie qui a une nouvelle présidente par intérim depuis cette nuit. Après le départ au Mexique d'Evo Morales, la sénatrice de droite Jeanine Agnès l'a donc remplacée le temps d'organiser de nouvelles élections. Une annonce aussitôt qualifiée de coup d'État par l'ex-président Morales qui dispose toujours de beaucoup de fidèles dans le pays après 14 années au pouvoir. Exemple hier à La Paz, la capitale, avec cette manifestation de soutien, manifestation pacifique après 2 jours de violence. Le reportage d'Alice Campagnol.
Les partisans d'Evo Morales s'étaient réunis hier dans le centre-ville de La Paz pour exprimer leur colère face à ce qu'ils appellent un coup d'État. Leur dirigeant a été forcé par la rue à démissionner, lui qui avait été élu démocratiquement en 2014 avec plus de 60% des suffrages. Aujourd'hui, les soutiens de l'ancien président, souvent humbles et majoritairement d'origine indigène, se sentent plus seuls que jamais.
Sincèrement, il n'y a personne pour nous représenter. La voix du peuple est partie. Celui qui nous a toujours représentés n'est plus là, auprès de nous. Il n'y a personne. Qui va dire notre vérité ?
Le regroupement était pacifique après les violences qu'a vécu La Paz pendant 2 jours. Violences commises par des groupes qui soutiennent aussi l'ancien président venu semer la terreur dans la ville. Mais les manifestants aujourd'hui voulaient montrer un autre visage des mouvements indigènes et paysans. Ils sont descendus dans la rue avec des demandes précises.
On veut un gouvernement neutre et provisoire et si cette Madame Agnès veut être présidente, on ne l'acceptera pas.
Mais c'est bien Jeanine Agnès du parti Unité Nationale de l'opposition qui s'est déclarée présidente par intérim de la Bolivie hier soir. Et la nouvelle occupante du fauteuil présidentiel n'a pas l'appui des parlementaires du MAS, le parti d'Evo Morales, ni de ses militants. La Paz, Alice Campagnol, France Inter.
La tension en revanche ne retombe pas autour de Gaza suite à la mort d'un commandant du djihad islamique tué par l'armée israélienne. Près de 200 roquettes ont été tirées pour la seule journée d'hier vers Israël. Et ce matin, reprise des hostilités, les sirènes d'alarme se sont mises à nouveau à retentir près de Jérusalem. Un Palestinien a été tué dans une frappe ce matin, faisant au total une dizaine de morts côté palestinien depuis hier.
Et on termine avec du sport, Sébastien, et la rentrée médiatique du tout nouveau sélectionneur du 15 Place de France.
Fabien Galthié qui a choisi de la jouer terroir. C'est dans son petit village natal du Lot qu'il a donné rendez-vous aux journalistes. Le village de Montgesti, 335 habitants. Montgesti, capitale du rugby français pour un jour au moins. Une opération séduction du nouvel homme fort de l'Ovalie afin d'adoucir une image parfois un peu rigide. Le reportage à Montgesti de Fanny Lechevestrier.
Montgesti, 335 habitants, sa grande rue, son unique bar épicerie, on va y revenir, et sa mairie où le téléphone sonne plus qu'à l'accoutumée. Il faut dire que monsieur le maire est aussi le père de Fabien Galthié. Alors inlassablement, Jean-Noël raconte la jeunesse de cette conférence de presse originale.
Le samedi et le dimanche, on a un petit bar et on va prendre l'apéro. Il est venu avec nous, il a pris l'apéro, et puis en redescendant à la maison, il me dit « Bon papa, la première conférence de presse, je vais faire Montgesti. » Ben, j'ai dit « Oui, pourquoi pas ?»
Et voilà, 15 jours plus tard, la petite salle communale prête pour accueillir la presse nationale, malgré la camionnette transportant les chaises tombées en panne hier matin. Quant au bar donc, le Montgesti, ici, le sélectionneur, c'est juste l'enfant du pays.
Oui, mais souvent quand...
Le pays, c'est une pouponnière à Galthié, ici.
Bon, quand on est ici, on lui évite de lui parler rugby.
Et au fil de la discussion, on découvre un homme, loin de l'image inaccessible et froide qu'il affiche avec les médias.
Il est humble, gentil. Il vient toujours nous dire bonjour. Il fête ses victoires ici, souvent.
Je l'ai vu faire des pompes l'été dernier. Il était mis au défi par la patronne.
Et il a réussi.
Bien sûr.
Son père lui reconnaît juste un bon caractère.
Mon épouse a beaucoup de caractère. Moi, j'en ai pas mal. Bon, donc, c'est bien.
Et plus on les écoute, plus on se dit que Fabien Galthié a déjà remporté sa première victoire, celle de changer son image.
Voilà, maintenant, ça serait bien qu'il remporte aussi la Coupe du Monde de France. du Monde en France, ça sera dans 4 ans, en 2023.
Merci, Sébastien Le Génie. La politique est à suivre.